besoin d'être entendus et compris. Nous existons par nous-mêmes, certes, mais nous amplifions notre bonheur de vivre lorsque nous trouvons notre place au sein d'une relation. Nos proches apprennent à nous connaître et agissent en conséquence. Mais même sans oreille attentive, le simple fait de pouvoir nous exprimer est enrichissant. Nous mettons nos pensées en ordre, nous devons les traduire en paroles et en phrases cohérentes, et donc y mettre un peu de précision et de vérité. Lorsque nous ruminons tout seuls dans notre coin, nous faisons les questions et les réponses, vivons les plaintes et les réconforts. Nous réécrivons l'histoire comme elle nous arrange, sans contradicteur. Nous pouvons nous leurrer longtemps en tournant en rond, alors que la mise en mots, a fortiori devant témoins, nous oblige à plus d'honnêteté. Si nous avons la tentation d'arranger la vérité à l'aune de nos besoins, nous percevons mieux le caractère tendancieux de notre rumination lorsque nous l'exprimons tout haut. L'intérêt de la rumination. Pourquoi ressasser ce qui fait mal ? Pourquoi tournons-nous en rond durant des heures et des jours, des semaines parfois, en repassant le film de nos soucis et en les exagérant de surcroît ? Nous avons été peinés, quelqu'un nous a manqué de respect, nous vivons une situation d'injustice et hop, nous voilà plongés dans une marmite d'aigreur et de revendications stériles dont nous écoutons les litanies en boucle. Une peccadille prend des allures infernales. Un souci qui aurait pu être résolu en discutant s'amplifie au point que nous ne voyons plus comment en sortir. Bref, nous entretenons consciencieusement notre propre malheur. Quel en est l'intérêt ? Aucun ? Si, il y a toujours un intérêt, souvent caché, à faire quelque chose qui ne nous fait aucun bien apparemment. Sinon, nous ne le ferions pas. Le premier avantage que nous avons à nous coincer de la sorte est d'éviter de devoir faire l'effort de résoudre le problème. Nous n'abordons pas les choses en face, n'allons pas trouver l'interlocuteur qui nous cause des soucis, c'est plus facile de lui en vouloir seul dans notre coin que d'aller le trouver. Cet intérêt-là n'est pas trop difficile à reconnaître. Mais le second est moins conscient. Il est lié au constat que nous ne ruminons pas pour n'importe quoi. Seul un certain type de situation nous met dans cet état. Celles qui réveillent nos vieilles blessures. En ne les comprenant pas et en ne les soignant pas, nous persistons dans nos croyances dépressives telles que « la vie n'est pas juste, c'est toujours à moi que ça arrive, les gens sont hypocrites, ils ne me respectent pas, je n'y arriverai jamais, je ne suis pas capable, on ne m'aime pas, je suis nulle, etc. » En ruminant, nous augmentons notre malheur afin de rendre la résolution inatteignable et de la sorte, nous évitons de devoir nous retrousser les manches pour nous atteler à rendre notre vie meilleure. Mais en regardant les choses positivement, nous pouvons aussi prendre conscience du message puisque nous l'exagérons tellement et comprendre qu'il y a là quelque chose de douloureux que nous ferions mieux de résoudre plutôt que de le laisser nous torturer en douce régulièrement. La verbalisation est le premier bienfait d'une thérapie. Face au thérapeute, ou à quiconque écoute avec bienveillance et sans jugement, l'expression verbale impose de la clarté et de la sincérité. Nous pouvons nous exprimer de diverses manières, par les actes, les arts, le corps, mais le mode d'expression que nous allons explorer est évidemment la parole. Elle est la plus habituelle, mais aussi la plus complexe et la plus malmenée. Nous avons appris sur le tas, par essai et erreur, et parfois assez mal, à l'utiliser. Imaginons que nous en ayons gros sur le cœur. Nous nous sentons tristes, embrouillés, incompris ou fâchés. Nous aimerions faire le point avec une personne importante à nos yeux, mais avec qui la relation est tendue ou se dégrade. Nous ne nous sentons pas respectés. Nous avons l'impression qu'elle se moque de nous, joue avec nos nerfs ou avec notre cœur. Nous éprouvons des sentiments d'injustice et de frustration mêlés. Nous n'y voyons pas clair. Notre partenaire ne nous comprend pas, ne devine pas ce qui nous tourmente ou y réagit à contre-temps. Nous avons besoin de clarifier. Nous sentons que notre problème ne va pas se résoudre tout seul. Nous voulons expliquer ce qui se passe. Alors, si nous n'avons pas appris à nous exprimer, nous nous laissons aller impulsivement et nous parlons d'un flot continu, avec humeur et exagération, parce que nous sommes sous pression. Au contraire, si nous n'avons pas confiance en nous, nous devons prendre notre courage à deux mains pour quitter notre enfermement et les mots sortent au compte-gouttes. Que ce soit aisé ou laborieux, ça ne marche pas toujours très bien. Nous nous sentons maladroits, nous créons plus de tensions que nous n'en apaisons, nous n'arrivons pas à exprimer nos tourments, nous sommes mal compris, la situation s'envenime ou se tend. Bref, c'est un échec. Que se passe-t-il ? Pourquoi est-ce si difficile ? Pourquoi nous exprimons-nous mal ? Commençons par balayer devant notre porte et prenons un moment pour comprendre les dérapages créés par nos propres fonctionnements. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, nous sommes parfois les artisans de nos propres difficultés. Ce que dénoncent ces petites formules qui nous font sourire quand elles ne s'adressent pas à nous. Se tirer une balle dans le pied, creuser sa propre tombe, scier la branche sur laquelle on est assis, etc. C'est-à-dire construire consciencieusement son propre malheur. Nous ne voulons pas tomber dans cette ornière. Examinons alors ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Les reproches, c'est moche. Faire des reproches est une cause majeure de conflits dans les discussions problématiques. Les reproches font mal. Les critiques sont exagérées et blessantes. Les accusations dénigrantes et dévalorisantes. Reprocher, c'est accuser. Comme si nous avions raison et l'autre tort. Attribuer la cause de ces problèmes à autrui est une tendance toute naturelle qui vient de l'enfance. En effet, le petit enfant n'a pas la capacité de gérer son environnement en fonction de ses besoins. Il subit sa vie dans la mesure où il ne décide pas grand-chose. Ne pas tenir le gouvernail est normal à cet âge. On décide pour lui. S'il est contrarié, c'est souvent parce que ses parents, un enseignant ou n'importe quelle grande personne qui a autorité sur lui, lui impose une situation qu'il est bien obligé d'accepter. Qu'il soit né dans une famille conventionnelle ou plus atypique, tout enfant doit s'adapter au fonctionnement de ses proches, à la maison, à l'école et en société. Il apprend que sa liberté n'est pas totale. Il y a des règles, des limites et des interdits. On lui enseigne qu'il n'est pas seul au monde et qu'il doit tenir compte des autres. Il est amené à faire le deuil de sa toute-puissance. Ce n'est ni facile, ni agréable, et cela engendre des frustrations et des colères légitimes. Feu vert, feu rouge, feu orange. À 2 ans, l'enfant marche et parle. Ses nouvelles fonctions stimulent son intelligence. Le contrôle de sa locomotion lui permet de se déplacer pour explorer son environnement et assouvir sa curiosité, tandis que le langage lui ouvre les portes de la communication et étanche sa soif intense de comprendre par de multiples pourquoi. L'accélération de son exploration du monde générée par ce double outillage lui permet de découvrir la dynamique de la relation. Ses parents limitent sa liberté et il en déduit que l'inverse est possible. Lui aussi peut imposer ou refuser. C'est l'âge du non. Si on lui refuse certaines choses, lui aussi peut le faire. S'opposer et observer ce qui en découle est très intéressant. L'enfant s'exerce à ce petit jeu, en autorisant ou en refusant, pour voir l'effet que cela produit sur les autres. Il apprend également divers autres rouages de la relation. Séduire, amadouer, insister, convaincre. Découvrir l'influence qu'il a sur autrui est une aventure très excitante. Les parents, ne comprenant pas vraiment ce qui se joue autour de cet âge, répondent à la nouvelle autorité de leur bambin au gré de leur humeur ou de leur état de fatigue. Un jour, il arrive à obtenir ce qu'il veut, mais une autre fois, c'est impossible. Parfois, un parent interdit, mais l'autre autorise. Le défi en est d'autant plus complexe. Alors il s'y exerce autrement, essaye encore et encore, jusqu'à ce qu'il comprenne les règles de la relation. Les parents sont souvent désemparés durant cette période. Ils ne savent pas toujours bien ce qu'ils doivent permettre et ce qui est interdit, et ne sont pas toujours d'accord entre eux. Pourtant, quelques accords simples les aideraient. Je propose le système feu vert, feu orange et feu rouge. Feu vert représente les autorisations sur lesquelles père et mère sont d'accord. Cette zone offre un champ où l'enfant peut exercer sa liberté. Soit elle est commune à son groupe social, soit elle est spécifique à sa famille. Dans ce cas, il faut le lui expliquer. Par exemple, chez nous, tu peux faire des cabrioles dans le canapé, mais ce n'est pas le cas chez tout le monde, donc tu regardes ce que les autres font lorsque tu es chez eux et tu t'y conformes. Feu rouge représente les interdits déterminés par les deux parents. Ils se sont bien mis d'accord et l'enfant n'a pas la possibilité d'obtenir une autorisation en allant quémander chez l'autre parent. Grâce à ses limites stables, il apprend à accepter la frustration et la limitation de sa toute-puissance. Le monde ne va pas s'adapter à lui, c'est lui qui doit s'adapter au monde. Les interdits peuvent être communs au groupe social ou spécifiques à la famille, et dans ce cas, on le lui explique. Il y a des familles où on peut entrer dans la maison avec ses chaussures, mais chez nous, c'est interdit. Chez nous, on enlève ses chaussures en entrant et on met des chaussons. Feu orange représente la zone où il y a de la marge, de la négociation possible et des avis divergents. Père et mère peuvent y exprimer l'évidence normale qu'ils n'ont pas toujours le même avis sur les choses. On peut très bien dire à son enfant qu'en effet, papa n'aime pas cela, mais que maman est d'accord. Comme dans la vie normale, tout le monde n'a pas toujours le même avis. Cette zone est très importante parce qu'elle apprend à l'enfant qu'en s'y prenant bien, il peut gagner des combats. Il apprend à tester sa puissance, ses talents de négociateur, son charme, ses possibilités de convaincre et de gagner. Remporter un combat est jouissif et développe la conviction que pour obtenir ce qu'on veut, il faut donner de soi. La vie n'est pas écrite en noir et blanc, en autorisé et interdit. Elle est pleine de zones de flou, de passages à découvrir et de solutions à construire, de personnes rigides et d'autres plus souples. C'est dans cette zone intermédiaire que l'enfant apprend tout cela. S'il était naturel, lorsque nous étions enfants, d'attribuer la cause de nos frustrations aux autres, aujourd'hui, c'est fini. Adultes, nous devons répondre de ce qui nous arrive. Cependant, l'automatisme est installé et il est tentant d'y avoir recours. Quand nous sommes contrariés, nous commençons souvent par faire des reproches aux autres. C'est si bon d'avoir sous la main un coupable qui nous allège de notre responsabilité. Tu aurais dû me dire que ça allait coûter si cher. C'est 10 fois trop. Et puis tu sais bien que je n'aime pas ce genre de vacances. Mais tu ne m'as rien demandé. Tu étais d'accord. Ce n'est pas vrai. Tu fais toujours les choses à ta façon et puis tu me mets devant le fait accompli. Tu décides à ma place. Mais c'est complètement faux. C'est toi qui ne t'intéresses pas à ce que je dis. Et puis tu critiques mes choix. Tu es vraiment de mauvaise foi. En général, l'impulsion de faire un reproche nous paraît logique, puisque ce qui nous heurte semble provenir des comportements de notre partenaire. Le reproche est le témoin de notre incessante envie qu'il corresponde à nos besoins. Il n'est pas là où nous l'espérons ? Reproche. Il agit d'une manière qui nous blesse ? Reproche. Il prend de la distance, ne nous informe pas de quelque chose qui nous paraît important, ne répond pas à nos questions, n'est pas disponible, n'aime pas ce que nous lui offrons. Reproche en série. Vu sous cet angle, cela a l'air un peu infantile, n'est-ce pas ? Et qui plus est, nous sommes parfois tentés d'accuser la personne dans sa globalité au lieu de pointer précisément le comportement dérangeant. On dira « tu es agressif » plus facilement que « cette phrase me blesse ». Avec nos reproches, nous ne contribuons pas à créer de bonnes conditions de communication. Nous nous exprimons, certes, mais de manière accusatoire. ce que ne manque pas de noter l'interlocuteur, qui s'en défend comme il peut. Il conteste les accusations portées contre lui, et cela ne fait pas avancer la discussion vers une bonne compréhension de ce que chacun vit et souhaite. On assiste alors à un feu croisé de reproches et de réfutations qui nourrissent une escalade symétrique de plus en plus douloureuse et contre-productive. Nous verrons au chapitre 4 comment supprimer les reproches et par quoi les remplacer. La timidité. La peur d'ouvrir son cœur est une autre grande cause dans les difficultés d'expression. Dès qu'on s'exprime, on s'implique. On met un peu son âme à nu. Si la vie nous a appris durant l'enfance ou plus tard combien il est risqué de se montrer sans défense, si nous nous sommes fait piéger, humilier ou ridiculiser, si nous n'avons pas bénéficié de l'écoute de nos parents et que nous nous sentions inintéressants, encombrants, voire stupides, nous avons peut-être développé des mécanismes de protection destinés à éviter le retour de ce danger potentiel. Mais plus nous sommes barricadés, moins nous testons nos possibilités d'expression, même partielles et prudentes. Nous ne sommes pas responsables du pauvre état de notre caisse à outils qui date d'hier, mais nous avons le devoir de la garnir aujourd'hui d'outils véritablement performants. Malheureusement, certaines personnes ont une triste propension à se mettre dans des situations qui confirment leurs convictions. Malhabiles ou fragiles, elles s'expriment peu, sans prudence ou maladroitement, et en retour, elles s'en trouvent d'autant plus vulnérables et convaincues qu'il vaut mieux se protéger. À peine entr'ouverte, la porte se referme. Sans entraînement, on n'apprend pas. L'expression de soi, comme beaucoup d'apprentissages, passe par une période de rodage. On n'est pas doué du premier coup. Il faut essayer, s'y reprendre autrement, observer les autres, tester des alternatives, et on s'améliore. Les timides ont un tel manque de confiance en eux qu'ils n'essayent pas vraiment. Ils n'osent pas s'exprimer, persuadés que leur gaucherie naturelle va les rendre ridicules. La peur de parler, et plus encore en public, les tétanise, comme si le danger était réel. S'ils tentent leur chance, ils sont tellement stressés qu'ils sont en effet parfois un peu malhabiles. Mais jamais ridicules. La peur du ridicule vient de l'enfance, de ces moments de grand désarroi où le petit s'est senti sujet de moquerie de la part de ses copains et parfois même de ses professeurs. Ce sont des instants de solitude vertigineuse dont les cicatrices sont longues à disparaître. Si nous avons assisté aux efforts d'un timide pour oser dire enfin ce qu'il a sur le cœur, jamais les adultes qui l'écoutent ne se moquent de lui comme ont pu le faire des enfants. Il peut arriver, au pire, qu'ils soient un peu agacés, mais souvent ils sont plutôt touchés et indulgents, se reconnaissant dans cette difficulté si humaine. Et si ce n'est pas le cas, s'ils ricanent, ils ne méritent pas que vous vous adressiez à eux. Fuyez-les. Les introvertis ne sont pas tous timides. Les timides ont peur. Ils le sentent et cette émotion les tétanise. Les introvertis sont prudents. Ils réfléchissent avant de parler. Ils n'estiment pas nécessaire de tout dire à tout moment. D'un naturel calme, ils attendent que le moment soit propice et qu'ils aient un certain intérêt à s'exprimer. Sinon, cela n'en vaut pas la peine. Quand je fais porter mon désir par autrui. La timidité empêche également de formuler des demandes directes. Un peu gênées, les personnes qui manquent de confiance en elles ont recours à des tournures qui inversent la dynamique pour éviter d'assumer leurs souhaits. Souvent, cela prend un air charmant, c'est assez anodin et personne ne s'en rend compte. Louis travaille régulièrement sur mon chantier et j'apprécie beaucoup ses talents de charpentier. Nous avons une confiance et une sympathie mutuelles. Dernièrement, au milieu de la matinée, il me dit, d'un ton tout gentil, « La fois passée, j'avais fait du café et c'était bienvenu. Tu n'aurais pas envie d'en faire ?» Cette manière indirecte de formuler sa demande comporte deux zigzags. D'une part, Louis commence par rappeler qu'il a déjà fait du café lui-même, ce qui peut signifier diverses choses. Que maintenant c'est à mon tour ? Non, cela ne correspond pas à ce qu'il pense. Que c'est facile à faire et que donc il ne me demande rien de bien compliqué ? Non, ce n'est pas ce qu'il veut dire. Ou qu'au contraire, il n'a pas la possibilité d'en faire aujourd'hui, mais que normalement, c'est son rôle. Non plus. En fait, je n'en sais rien. Cette petite introduction à sa demande génère une légère confusion. Une information dont je ne comprends pas le but. Ensuite, la demande elle-même est formulée d'une manière tortueuse. Il me demande si je n'aurais pas envie de faire du café, alors qu'en fait c'est lui qui en a envie. Cette tournure est commune, mais elle n'est pas insignifiante si on s'y arrête un instant. Si je le prends au mot, c'est comme s'il me demandait si par hasard je n'aurais pas envie de faire du café, mais que je ne le disais pas, comme si j'avais peut-être ce désir, mais que je n'osais pas l'exprimer, ce qui n'est évidemment pas le cas. Les gens présentent ainsi leur demande parce qu'ils craignent de déranger. Ils n'imaginent pas que quelqu'un pourrait aimer répondre à leur désir et leur faire plaisir. Ils estiment ne pas en valoir la peine. Ils n'ont pas suffisamment d'estime personnelle sur le plan relationnel. Il faut alors qu'ils créent artificiellement des raisons, une logique, un argument pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Alors que ce serait plus juste de dire « Cela me ferait vraiment plaisir que tu me fasses un petit café, tu veux bien ?» Quant à moi, je répondrai volontiers à son souhait. Quand une demande de ce type s'inscrit dans un lien de sympathie, il n'y a pas beaucoup de risque qu'elle soit refusée, d'autant qu'elle est somme toute assez simple. Mais surtout, et c'est peut-être cela qui échappe à Louis, faire plaisir fait plaisir. Rendre un petit service agréable est un bénéfice autant pour celui qui le reçoit que pour celui qui le donne. L'exemple du café est charmant et sans gravité. Mais cette inversion de dynamique peut devenir exaspérante et même assez tordue. Il arrive que des personnes m'écrivent pour obtenir une consultation. Normalement, lorsqu'on souhaite consulter un professionnel, c'est le demandeur qui sollicite un rendez-vous. Mais certains individus font l'inverse. Ils me racontent leurs difficultés par mail et terminent leur message en concluant « Si mon cas vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, voici mon numéro de téléphone. » Cette projection de leur demande sur moi, si je l'acceptais, aurait des conséquences sur le rapport qui s'installerait ensuite entre eux et moi, parce qu'elle se baserait sur le présupposé que c'est moi qui aurais envie de connaître leur vie, alors que c'est eux qui ont besoin de me la raconter. D'autres personnes parfois m'écrivent « J'ai rédigé un texte ou un livre sur tel sujet, proche de mes préoccupations, peut-être auriez-vous envie de le lire ?» Alors qu'il est clair que, là aussi, la dynamique du désir est inverse. Ces personnes devraient davantage dire « J'ai envie de vous consulter » ou « J'aimerais que vous lisiez mes écrits et me donniez votre avis. » Une demande assumée amène une réponse claire, alors qu'une demande sinueuse suscite une méfiance qui contamine la relation. Dans les petits détails du quotidien, les inversions du désir sont souvent anodines, proches de la formule de politesse, une gentille manière de demander un petit coup de pouce, sans plus. Mais dans le cadre d'une relation thérapeutique, elle ne convient pas, parce qu'elle crée une dynamique fausse. Le demandeur doit rester le demandeur, et le thérapeute ne doit pas entrer dans son jeu. Il en va de la qualité du travail qui s'ensuivra. Entre ces deux extrêmes se situent les histoires de tous les jours qui mériteraient qu'on essaye d'éviter ces inversions, parce qu'à la longue, elles sont véritablement agaçantes. La sœur de Mélanie lui laisse un message sur son répondeur. « J'ai eu un petit problème de santé. Si tu veux savoir, appelle-moi. » La relation entre les sœurs est tendue et Mélanie ne sait pas si ce coup de fil est nécessaire ou si elle va devoir subir une fois de plus les litanies plaintives de sa sœur. Ce serait plus juste de dire « J'ai eu un petit problème de santé dont j'aimerais te parler. » Apprenons à dire « Je souhaite, j'ai besoin de, cela me ferait plaisir que tu, je voudrais, j'ai envie, j'aimerais que. » Cela n'a rien de narcissique, n'en déplaise aux éducateurs qui nous ont appris le contraire. C'est juste une honnête manière d'assumer et d'exprimer nos désirs et nos besoins, sans plus. Trop ou trop peu, défaut d'ajustement. Parfois, dans les familles nombreuses ou dans les bandes de copains, tout le monde parle en même temps. Et pour se faire entendre, pour attirer l'attention vers soi, le jeune exagère. Il truffe son discours de tous les « hyper, super, trop, toujours et jamais » qu'il a sous la main. Il lui faut un scoop pour qu'on l'écoute, une histoire méga cool. Sans cela, il a l'impression, à tort ou à raison, de ne pas être entendu. Il lui faut utiliser des mots excessifs. Il rajoute la TVA à tout ce qu'il dit. Cette habitude efficace ne le lâche plus et crée une difficulté dans ses capacités d'expression ultérieures. Il doit apprendre à ajuster ses mots avec ce qu'il veut dire exactement. Parce que les exagérations intempestives découragent les écoutants qui sentent bien que les propos manquent de sincérité. Ce n'est pas la vérité qui est exprimée, mais une version gonflée, excessive et totalement sans nuance. Le désir de convaincre est tangible, mais il repose sur un manque d'authenticité qui sonne faux et crée méfiance et éloignement. Ou qui impressionne, mais dans ce cas, cela n'amènera pas nécessairement une compréhension mutuelle juste et agréable. De manière générale, même en dehors de la tendance à tout exagérer, c'est un exercice nécessaire et parfois ardu. Nous devons apprendre à adapter le mieux possible nos mots à ce que nous cherchons à dire. Nos paroles doivent épouser au plus près les pensées que nous souhaitons formuler, comme un emballage sous vide. Par aspiration de l'air, le film plastique se rapproche de l'objet jusqu'à adhérer au moindre relief. Nos mots, s'ils sont bien pesés, doivent en faire autant. Nous en sommes d'autant mieux compris. Une autre manière de polluer notre expression consiste à dire sans dire, sous-entendre, effleurer, suggérer. L'écoutant a l'impression d'une menace, mais elle n'est pas prononcée, et peut-être même n'existe-t-elle pas, mais l'effet menaçant est obtenu et la gêne occasionnée empêche notre écoutant de s'ouvrir complètement à ce que nous lui disons. Je ne suis pas sûre de pouvoir continuer à collaborer dans ces conditions. Sûr ou pas sûr? Dans quelles conditions? Nous évoquons, mais nous n'affirmons pas. Ou nous affirmons, mais sans nuance ni précision. Nous disons quelque chose, mais que disons-nous exactement? Nous suscitons la méfiance ou l'agacement. Ni l'un ni l'autre ne sont propices au dialogue ouvert. Ne mélangeons pas tout. On confond parfois la manipulation avec la stratégie, le chantage, le machiavélisme et d'autres formes de pression. Essayons d'y voir un peu plus clair. Lorsqu'on évoque le comportement d'une personne qui, en toute lucidité et sans aucun scrupule, tire sur les ficelles pour obtenir ce qu'elle veut et calcule ses coups avec une habileté perfide, le terme machiavélisme est le plus adapté. C'est le fait d'un être calculateur, parfaitement conscient de ce qu'il fait et qui en jouit avec quelquefois une petite pointe de sadisme. Le terme manipulation est parfois utilisé dans le cadre d'un diagnostic psychologique. Il serait plus juste, dans ce cas, de parler de perversion narcissique. Le pervers narcissique est un individu peu conscient de ses comportements sournois, de ses zones d'ombre et des dégâts qu'il occasionne. S'il jouit de l'emprise qu'il a sur sa victime, c'est d'une manière subconsciente qui relève plus du comportement de survie psychique. Cela le rassure. Il agit ainsi de façon assez instinctive, en particulier lorsqu'il se sent coincé. Il ne s'agit pas de l'excuser, loin s'en faut. Ce sont des comportements insupportables pour celui qui les subit. Mais espérer une prise de conscience de sa part est un espoir assez vain tant qu'il n'a pas fait un bon bout de chemin thérapeutique, ce qui est rarement sa demande. Quant à la stratégie, elle pourrait se définir comme un comportement intelligent qui consiste à ne pas dévoiler d'emblée tout son jeu, dans un contexte où il n'y a rien dont on puisse avoir honte et dans un but qui ne nuit pas. Se présenter à un examen d'embauche, par exemple, relève souvent d'une stratégie où nous savons qu'il convient de nous montrer sous notre meilleur jour. Il ne s'agit pas d'une manipulation parce que le cadre est clair et les règles du jeu également. L'excellente plaidoirie d'un avocat honnête est un brillant exemple de stratégie, la déontologie agissant, on peut l'espérer, comme garde-fou. Et qu'en est-il du chantage ? Il s'agit d'une pression morale exercée sur quelqu'un par l'effet d'une menace comportant un aspect sournois, comme la révélation de faits dont il a honte. C'est un moyen perfide et peu honnête d'obtenir de l'autre quelque chose qu'il ne souhaite pas faire, quelque chose qui va le léser ou lui faire du tort. Extorquer de l'argent sous la menace de révélation d'adultère, par exemple. Le chantage peut aussi s'exercer seulement par allusion, qui sous-entendent qu'on pourrait nuire à une autre personne. C'est encore différent de la pression que nous pourrions exercer en toute transparence sur quelqu'un pour obtenir un résultat louable dans le cadre de l'éducation d'un enfant, par exemple, à qui nous promettons une récompense ou une sanction liée au comportement attendu. C'est un deal, un contrat, assez basique parfois, mais qui ne comporte aucun caractère nuisible ou sournois. La différence entre les comportements de pouvoir pervers et les autres, c'est par exemple leur caractère fourbe, non assumé, perfide ou honteux. Quelqu'un qui exerce un pouvoir sain dans le cadre d'une hiérarchie professionnelle ou entre parents et enfants, quelqu'un qui plaide une cause ou qui fait preuve d'une fine stratégie n'aura pas de mal à s'expliquer sur ses fonctionnements, parce que même si tout n'est pas dévoilé, rien n'est suspect et à cacher pour autant. Comment l'écoutant nous empêche de nous exprimer ? J'ai essayé de lui dire, mais avec lui, il n'y a jamais moyen de parler. Qui sont ces gens avec qui il n'y a jamais moyen de parler ? Comment s'y prennent-ils pour nous empêcher de nous exprimer ? Est-ce nécessairement intentionnel ? Pas disponible. Si nous nous adressons à celui à qui nous avons envie de parler au moment où notre besoin s'impose, nous ne sommes pas assurés qu'il soit disponible. Ces tentatives, quelque peu intempestives, sont le signe d'un désir, voire d'une exigence, qui couve depuis un certain temps. Mais cette nécessité est la nôtre, pas nécessairement la sienne. Nous y pensons, nous ruminons, nous nous sentons sous pression et finalement nous abordons le sujet au moment où cela nous arrange. L'interlocuteur n'est pas demandeur et n'a pas nécessairement envie d'écouter ce que nous avons à lui dire. Si nous nous exprimons sans nous préoccuper de sa disponibilité, les circonstances ne sont pas très favorables pour bénéficier d'une écoute attentive. Cependant, cette manière maladroite de s'y prendre est loin d'être rare. Comme si aller à l'échec faisait partie d'une stratégie, bien inconsciente probablement, qui permet de continuer à affirmer qu'avec lui il n'y a jamais moyen de parler. Évidemment, si nous lui sautons dessus entre deux portes, nous augmentons la probabilité de pouvoir maintenir cette conviction. Chérie, il faut que je te parle, dit cette épouse excédée à son mari au moment où il enfile ses chaussures de sport pour aller faire son footing. Juste après le départ du contrôleur fiscal, le fils du patron d'une entreprise familiale en difficulté sollicite son père afin de savoir s'il aura droit à un poste de direction. Un adolescent qui veut négocier une permission de sortie harcèle sa mère alors qu'elle se met à préparer le dîner. Quelques minutes avant la fin de la séance, un patient entame un thème particulièrement sensible avec son psychothérapeute. Après avoir bavardé durant plus d'une heure au téléphone avec son ami, une femme sollicite son aide au moment où elle s'apprête à raccrocher. Un frère aborde des problèmes familiaux chez le notaire juste avant de signer un acte de vente. Pour s'épancher sur ses soucis conjugaux, un père appelle sa fille, mère de trois jeunes enfants, à l'heure des devoirs, du bain et de la soupe. Elle est longue la liste de ceux qui ne semblent pas pouvoir accorder leur désir de s'exprimer aux contraintes de la vie d'autrui. Ce fonctionnement entretient l'échec de la communication et la plainte qui s'ensuit. Malheureusement, Malgré notre sollicitude et notre vigilance quant à leur disponibilité, certaines personnes semblent ne jamais être disposées à écouter. Elles n'aiment pas être dérangées, ni dans leur emploi du temps, ni dans leurs convictions, et l'écoute n'est pas leur fort. Un certain type d'hommes, pas tous, messieurs, pas tous, ont été élevés d'une manière telle qu'ils n'ont jamais appris à écouter. Probablement n'ont-ils jamais été écoutés non plus. Ils ont été préparés à endosser le rôle traditionnel des hommes, trouver des solutions aux problèmes et agir. Ils sont destinés à être chefs de famille, en tout cas, mais aussi chefs d'équipe ou chefs d'entreprise. Face aux soucis qui leur est exposé, s'ils n'ont pas un rôle actif à jouer, ils se sentent impuissants et inutiles. Ils se désintéressent alors du problème. Écouter pour écouter est hors de leur cadre de référence. Ils n'y voient aucun sens. Lorsque quelqu'un en difficulté se confie à eux, s'ils ne peuvent aider concrètement, ils préfèrent couper court en raison de leur incapacité à agir. « Ça ne sert à rien d'en parler, je ne peux rien y faire. »« Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est comme ça, alors autant ne plus y penser et passer à autre chose. » Ils ne comprennent pas, et n'ont jamais eu le bonheur de le découvrir pour eux-mêmes, que s'exprimer est intéressant en soi, même si cela ne débouche pas sur une solution. L'expression de notre monde intérieur nous rapproche, nous permet de mieux nous comprendre, de créer une certaine intimité, toute chose qu'ils ne connaissent probablement pas. C'est dommage. Mais avec de la patience, cela s'apprend. Il ne m'écoute pas. Affiche une mine ennuyée. Fait mine de... Pire sont les gens qui semblent écouter, mais dont l'attention est superficielle. Leurs oreilles sont ouvertes, mais pas leur esprit. Et encore moins leur cœur. Nos paroles tombent au fond d'un puits, pas de réaction. On dirait qu'ils attendent, sans grand intérêt, avec condescendance parfois, que nous ayons fini de parler. Lorsque nous arrivons au bout d'une phrase, ils prennent une autre direction. Ils parlent de tout autre chose. Apparemment, ils n'accordent pas d'importance à nos propos, alors qu'ils semblent les avoir écoutés. Cette attitude est très troublante, parce qu'elle est méprisante, même si cela n'est pas clairement exprimé, ce qui sème le doute dans notre esprit. Est-ce nous qui sommes inintéressants? Avons-nous été trop longs? Pourtant, la personne nous avait posé une question, elle nous avait invités à nous exprimer. D'où vient cette impression que tout tombe à l'eau? Nous nous sentons un peu transparents, maladroits, amoindris. Subtile manipulation, pas nécessairement consciente, de la part de l'interlocuteur. Il établit une sorte de hiérarchie relationnelle et, sans le dire clairement, il indique que nous n'avons pas beaucoup d'importance à ses yeux. Antoine et Fanny entrent dans mon cabinet pour une consultation de couple. Fanny s'exprime d'emblée, les yeux pleins de larmes. « Leur couple part à la dérive, » dit-elle. Elle a tout le temps l'impression de ne pas être à la hauteur des attentes de son mari. Bien sûr, poursuit-elle, elle n'a pas fait de hautes études et elle ne peut prétendre à des fonctions professionnelles rémunératrices. C'est pourquoi ils ont décidé ensemble qu'elle resterait à la maison pour élever les enfants. Mais maintenant, elle doute de ce choix. Elle sent qu'elle manque d'intérêt aux yeux de son conjoint. Il ne manifeste plus d'affection à son égard. Il est de plus en plus distant. Il a même oublié l'anniversaire de leur mariage. Ses paroles sont accompagnées de beaucoup d'émotions. Elle n'est pas sûre d'elle, se tord les mains et pleure beaucoup. Son mari écoute paisiblement. Il ne la contredit pas, mais son calme semble manifester qu'il n'accorde pas beaucoup d'importance aux paroles de son épouse et encore moins à sa détresse. Lorsque je me tourne vers lui, il expose en deux mots ses responsabilités professionnelles, la lourde charge de faire vivre sa famille et son entreprise, et son désir lorsqu'il rentre à la maison de trouver une épouse disponible, détendue et reconnaissante d'avoir un mari qui assume largement sa part. Il ne se montre pas concerné par autre chose. Il a parlé, me regarde calmement et attend mon verdict. Seuls les faits comptent. L'émotion, c'est une perte de temps, un univers qu'il ne connaît pas ou qui lui fait peur. Si je ne veux pas que mes paroles tombent elles aussi au fond d'un puits, il va me falloir faire preuve d'un mélange d'habileté et d'audace qui va le toucher là où il ne s'y attend pas. Je le félicite pour son sens des responsabilités, ce qui le surprend, et pour la maîtrise avec laquelle il contrôle sa sensibilité. « Vous êtes un faux dur, » lui dis-je, le plus gentiment possible, avec une petite pointe de doute interrogatif. Il me regarde longuement. J'ai fait mouche, et je sais que son blindage va s'assouplir au fil des séances. Rire ou mourir. Certains individus sont agréablement accueillants lorsqu'on les rencontre, ils semblent ouverts à la conversation, mais nous n'arrivons cependant jamais à avoir un dialogue quelque peu consistant avec eux. Ils coupent la parole, réagissent à nos propos beaucoup trop vite, sans les avoir véritablement écoutés. Ils sont pourtant sympathiques et amicaux, d'un caractère plutôt enjoué et cordial. Ils adorent être entourés et faire rire la galerie. L'humour est leur tournure d'esprit permanente. Leur compagnie n'est pas désagréable, bien au contraire. On aime les avoir à sa table, avec eux l'ambiance est assurée. Ce sont apparemment des gens qui ont beaucoup d'amis. Des amis, vraiment ? Non, peut-être que ce ne sont que des connaissances, des admirateurs, un entourage social qui se renouvelle souvent, mais pas de véritables amis. Parce que, malgré leur bonne humeur, il leur semble impossible de poursuivre une idée en l'approfondissant un tant soit peu. Ils tournent tout en dérision, même les sujets pour lesquels un peu de sérieux ne nuirait pas. Ils ne sont que pirouettes et jeux de mots. On aurait envie de les coincer sur une chaise et de leur dire « Et maintenant, tais-toi et écoute !» Non seulement avec tes oreilles, mais aussi avec ton cerveau et ton cœur. Mais le comprendraient-ils ? Sont-ils capables eux-mêmes d'exprimer ce qui les habite ? Ont-ils jamais été écoutés ? Dès l'enfance, ils ont appris à faire rire. Leur premier public a été leurs parents, qui ont valorisé ce joyeux caractère. Mais c'est surtout à l'école que ce talent s'est développé. Le milieu scolaire est un terrain où la compétition ne s'exerce pas uniquement avec de bons résultats. Être chef de bande ou avoir beaucoup de copains est aussi un moyen de se distinguer, qui vient parfois bien à propos lorsque les notes scolaires ne sont pas brillantes. Pour être apprécié du plus grand nombre, l'humour est un moyen imparable. Tout le monde aime rire, et particulièrement les enfants. Un caractère facétieux et l'admiration des copains forment un cocktail efficace pour avoir un succès dont il devient vite difficile de se passer. Leur stratégie consistant à faire rire, ils minimisent ce qui dérange ou ce qui blesse, autant chez eux que chez les autres. Ils ironisent sur leurs propres sentiments, refoulent leurs émotions, autant la colère que la tristesse, et ont bien du mal à les sentir et à les comprendre chez autrui. Quand ils sont émus ou bouleversés, ils préfèrent s'étourdir, se distraire ou se défouler. Au fil du temps, ce rôle de bout en train devient leur seule manière d'obtenir de l'attention et ils s'y enferment involontairement. Que se passerait-il s'ils cessaient de faire le pitre ? Les aimerait-on encore ? Qu'apprécierait-on chez eux s'ils quittaient ce rôle d'amuseur public ? Leur construction psychique repose sur un système adopté pour se sentir aimé. Par leur sens du comique, ils ont du succès, mais pour autant ils ne sont pas vraiment heureux. Tellement peu parfois que la dépression les guette, l'angoisse ou l'épuisement aussi, et parfois même le suicide. La mort peut paraître plus tentante que la tricherie dans laquelle ils sont enfermés ou le risque d'en sortir. Ce sont donc des personnes qui ont bien besoin d'être écoutées, mais ce n'est pas facile de se glisser dans les failles de leur cuirasse de clown triste. Il me contredit, se fait l'avocat du diable. Résister pour exister pourrait être la devise de ces contradicteurs systématiques. L'impression qui se dégage de ces personnes et qu'elles ne peuvent rien accepter sans contredire. Écouter et approuver leur sont impossibles. C'est comme si elles en perdaient leur âme. Leur réaction consiste à contester de prime abord, avant même de réfléchir, dirait-on. Elles semblent ne voir que le verre à moitié vide, la face sombre, les défauts et les inexactitudes. Elles n'écoutent pas nos propos dans leur globalité et n'attendent pas de voir vers où nous souhaitons aller. Elles freinent immédiatement, comme si elles ne pouvaient pas se laisser pénétrer par une idée différente de la leur. Pour éviter ce risque, elles prennent le contre-pied systématiquement. Elles se font l'avocat du diable. Elles font l'inventaire de tout ce qui démontre que notre proposition ne tient pas debout, que notre idée est fragile, que notre vision des choses contient des points faibles. Or, notre récit n'est pas nécessairement parfait lorsque nous nous exprimons. Nous pouvons partager une idée qui n'est pas encore tout à fait aboutie. Il ne sert à rien de n'en regarder que les fragilités. Cette manière contrariante de focaliser sur les faiblesses et les défauts a pour effet de freiner notre envie de parler, parce que nous ne nous sentons pas bien reçus, mais aussi parce que nous devons surmonter ces bâtons dans les roues et lutter pour poursuivre. C'est fatigant, et ça n'avance pas vite. Et à force de s'expliquer, voire de se battre pour se faire entendre, on se décourage. Nous avons chacun une sensibilité particulière qui nous rend plus vulnérables face à certains types de personnes. D'autres raisons et d'autres modes de fonctionnement peuvent nous empêcher de nous exprimer. Nous avons fait le tour des plus fréquentes. Voyons maintenant comment nous y prendre pour nous exprimer avec plus de justesse. Manuel d'expression claire, même par temps brumeux. Nous avons appris à parler dès l'âge d'un an ou deux. Ensuite, nous avons affiné notre prononciation et élargi notre vocabulaire. Nous connaissons l'argot et les expressions idiomatiques, nous sommes familiers avec les tournures contemporaines, nous avons acquis un sérieux lexique professionnel, nous osons enfin parler en public, mais malgré tous ces progrès, nous nous sentons encore bien maladroits dans le domaine du dialogue affectif. Nous perdons nos moyens lorsqu'il s'agit d'exprimer ce qui nous tourmente dans le cadre d'une relation émotionnellement chargée. Aussi longtemps que nous demeurons sur un territoire froid, tout va bien. Mais sur le terrain du cœur, c'est infiniment plus impliquant et diablement difficile. Comment arriver à exprimer exactement ce qui nous préoccupe, sans gâcher la relation, sans blesser ni vexer, et en se donnant un maximum de chances d'être entendus comme nous le souhaitons, et d'aboutir à une amélioration de la situation. Petite méthode simple pour ne pas dire n'importe quoi. La plupart du temps, nous parlons spontanément, sans faire réellement attention à la manière dont nous disons les choses. Mais pour régler un problème ou clarifier une situation tendue, nous devrions peser nos mots et accorder notre attention à l'enjeu. Une petite technique peut nous y aider. Je l'appelle les niveaux d'attention 0, 1 et 2. Niveau 0. Lorsque nous nous exprimons sans trop réfléchir, dans une situation de bavardage paisible, par exemple, nous laissons les mots couler sans aucune attention particulière, c'est-à-dire zéro attention. Nous parlons comme ça vient, nous mettons le son sur nos pensées. Nous devisons tout simplement, nous papotons agréablement. La libre expression sans contrainte est le registre le plus fréquent de la conversation. Il ne poursuit aucun but particulier et crée simplement un lien par la parole entre deux ou plusieurs personnes. Cependant, pour résoudre des soucis, exprimer une demande difficile ou intervenir dans une réunion sérieuse, cela ne suffit pas. Si nous nous lançons dans une mise au point, par exemple, sans réfléchir à nos paroles, celles-ci peuvent vite dépasser nos pensées et nous amener à prononcer des phrases dures ou excessives que nous regretterons peut-être ensuite ou qui laisseront une trace indélébile dans la relation. Sans attention à ce que nous disons, nous partirons facilement vers les reproches et nous accuserons notre interlocuteur d'être à l'origine de notre difficulté. Dans le cas où nous aimerions aider quelqu'un, Si nous ne réfléchissons pas pour choisir nos mots et progresser intelligemment, nous pouvons devenir intrusifs ou donneurs de leçons et transformer notre bonne intention en jugement. On observe souvent des interventions de type zéro dans les conversations de groupe et dans les réunions informelles. Chacun y va de son idée, qui est jetée dans la mêlée, au petit bonheur la chance. Ça part un peu dans tous les sens, et ce n'est pas vraiment efficace. Niveau 1. Lorsque nous souhaitons apaiser ce qui nous tourmente, il est nécessaire de clarifier nos pensées. Si nous devons aborder un sujet difficile, nous devons d'abord bien cerner ce qui nous préoccupe. Pour progresser dans la construction d'une décision commune, nous devons réfléchir en amont à ce que nous souhaitons dire ou demander. Nous portons alors très attentivement notre attention sur ce qui nous habite. Nous sommes concentrés sur une personne, niveau 1, nous-mêmes. Nous réfléchissons. Nous sommes centrés sur notre monde intérieur. Quelles sont les pensées qui me tournent dans la tête? Qu'est-ce qui me préoccupe? Qu'est-ce que je veux vraiment? Quelle est mon intention? Mon désir? Comment vais-je m'y prendre? Nous avons absolument besoin de passer par ce niveau de réflexion dès que la communication porte sur un sujet quelque peu complexe. Il nous permet d'organiser nos pensées, de déterminer ce qui compte vraiment, ce qui nous touche, ou la teneur de notre besoin. Mais pour passer de l'intention qui nous habite au résultat que nous souhaitons atteindre, ce niveau 1 ne suffit pas pour parachever l'expression. Niveau 2. Notre préoccupation est clarifiée, mais nous allons nous exprimer dans le cadre d'une relation singulière, dans un contexte émotionnel spécifique. Nous ne parlons pas de la même manière avec tout le monde. Chaque personne a sa sensibilité et son caractère, et elle percevra nos paroles en fonction de ce qu'elle est. Si au niveau 1, la question qui a guidé nos réflexions était globalement « qu'est-ce que je veux dire exactement ?», maintenant nous parlons à quelqu'un de particulier, et la question devient « comment m'y prendre pour me faire comprendre de cette personne-là comme je le souhaite ?» Si nous nous trouvons dans une réunion de groupe et que nous avons un but particulier en tête, nous devons bien peser nos mots en fonction de tous les éléments dont nous avons connaissance et décider exactement ce que nous allons dire et comment nous allons l'exprimer pour augmenter nos chances d'obtenir l'effet souhaité. Nous ne nous contentons plus de suivre notre intention, nous cherchons à atteindre un certain résultat. Nous ne sommes plus attentifs uniquement à nous-mêmes et à nos pensées, niveau 1, mais à deux personnes, nous et notre interlocuteur. Non seulement nous endossons la responsabilité de nos paroles, mais également celle de leurs conséquences. Nous rassemblons tout ce que nous savons sur cette personne, son désir de nous entendre ou non, ce que nos paroles vont générer dans son esprit, les émotions qu'elles vont éveiller, les réactions que nous pouvons anticiper, comment nous allons y réagir, etc. Cette préméditation est également valable si nous sommes face à un groupe, évidemment. Si j'illustre ces trois niveaux d'attention par les diverses manières d'ouvrir une porte fermée à clé, le niveau zéro correspond à l'impulsivité d'une personne qui tambourine, secoue, pleurniche ou s'appuie contre la porte. Le niveau 1 illustre ce que ferait un individu qui parle debout devant la porte ou qui essaye sans beaucoup de succès de faire passer un message sous la porte. Alors que le niveau 2 est le comportement de celui qui conçoit la clé qui va ouvrir la porte. Il ne se contente pas de chercher une clé. Il la fabrique, ouvre la porte avec circonspection et s'exprime clairement dans la langue de celui qu'il rencontre. Parler dans une langue intelligible est utilisé ici sur le plan symbolique, pas sur le plan linguistique. Comme nous le faisons lorsque nous nous adressons à un enfant ou à quelqu'un qui ne parle pas bien notre langue. Nous utilisons des mots de premier niveau, une syntaxe simple et nous parlons lentement afin d'être compris. Symboliquement, c'est ce que nous devrions faire chaque fois que nous cherchons à être compris d'une personne particulière. Adapter notre langage, non seulement à sa culture et à son âge, ce qui est le plus facile, mais surtout à sa sensibilité, à ses émotions, mais par-dessus tout au but que nous voulons atteindre. L'image de la porte à ouvrir est lourde de sens, parce qu'elle engage la responsabilité de l'expéditeur du message, non seulement quant au contenu du propos lui-même, mais également en ce qui concerne les conséquences que ces paroles vont entraîner. Et les conséquences des conséquences. On ne jette pas un message dans la direction de l'autre et « après moi le déluge ». Nous devons assumer nos paroles et les traces qu'elles laisseront, quelles qu'elles soient. Comme nous sommes responsables de tout ce que nous faisons ou ne faisons pas, nous sommes également responsables de tout ce que nous disons ou ne disons pas. Omettre de dire quelque chose peut avoir des conséquences heureuses ou néfastes, tout comme peuvent en avoir les paroles exprimées. Nous en sommes largement responsables. Le joueur qui lance sa balle à son coéquipier est tout aussi responsable de la justesse de son tir que l'est celui qui la réceptionne, selon la manière dont il l'attrape et ce qu'il en fait ensuite. De la collaboration des deux dépendra le succès du match. Il est évident que si le premier lance une balle à un partenaire distrait, le point est perdu. Mais le lanceur est tout aussi responsable d'avoir joué quand l'autre ne regardait pas que ce dernier d'avoir été inattentif. L'échec est partagé. Quel est le but visé? Le choix de ce que nous allons dire et comment le dire est complexe mais essentiel. C'est vraiment là qu'on voit la différence entre un débat qui est destiné à apaiser le conflit, par exemple, et celui qui transforme un différend en dispute. La question du but visé peut se poser à propos de n'importe quel type d'intervention. Par exemple, dans le choix éditorial d'un journal télévisé, d'une émission ou d'un reportage. Pourquoi le rédacteur en chef choisit-il de développer un sujet plus qu'un autre? Pourquoi, par exemple, des scènes de drame repassent-elles en boucle après un accident ou un attentat? Quelle est l'intention? Rassurer la population? J'ai des doutes. Dans le cadre d'une réunion de groupe destinée à faire avancer un projet, certaines personnes interviennent à tort et à travers. Elles critiquent les idées émises, par exemple, mais sans proposer d'alternative. À quoi ça sert? Cela démontre qu'elles sont vigilantes, certes, mais elles découragent et parfois vexent ceux qui ont proposé quelque chose d'imparfait. Je fais souvent cette observation et parfois j'aimerais poser la question « Dans quel but critiquez-vous? Quel résultat espérez-vous obtenir ?» La critique sans proposition alternative n'a pas vraiment d'objectif. C'est juste l'expression irréfléchie de sa propre opinion ou frustration. On donne son avis, sans plus. Avec un peu plus de réflexion, on pourrait prendre conscience que ses propos ont un effet. Cet effet est toujours nocif. Certes, il fédère les mécontents, et c'est peut-être son seul attrait. Ils pourront râler ensemble et se sentir moins seuls. Mais pour les autres, ces vaines critiques sur l'état du monde et ses multiples facettes ne servent qu'à miner le moral et entretenir la morosité ambiante. Sur un plan interpersonnel, quel but visons-nous en exprimant un jugement critique lorsqu'une décision est déjà prise ou un acte accompli? Quelle est l'intention de cette mère, par exemple, lorsqu'elle critique le choix amoureux de sa fille? Celle-ci va-t-elle quitter son compagnon pour donner raison à sa mère? Ou cela va-t-il juste ternir les relations entre elles ou l'ambiance dans le couple? Pourquoi mettre en question le prénom d'un nouveau-né lorsque les parents ont fait leur choix et que l'enfant est inscrit à l'état civil? Pourquoi désapprouver les choix esthétiques d'un ami dans l'aménagement de sa nouvelle maison? À quoi servent ces paroles, si ce n'est à assombrir le bonheur de l'autre? Mais j'ai quand même le droit de dire ce que je pense. Oui, oui, vous en avez le droit. Il ne s'agit pas de renier vos droits, ni de vous censurer, mais de savoir le but que vous poursuivez. Mais je ne poursuis aucun but particulier, je donne mon avis, c'est tout. C'est mon droit quand même. Effectivement, vous ne poursuivez aucun but. Vous lancez la flèche sans viser quoi que ce soit, et donc vous ne vous souciez pas de sa cible. C'est un peu vite dit. Je ne peux quand même pas réfléchir à chaque mot que je prononce. Non, pas à chaque mot, mais à ceux qui comptent. Mais alors, je perds toute spontanéité. Parfois oui, parfois non. La spontanéité n'est pas toujours un bon guide. Mais si je dois peser tous mes mots, je ne suis plus moi-même. Mais si, vous resterez toujours vous-même, mais avec quelques nuances en plus. Et peut-être quelques échecs en moins. Mais comment savoir, alors, ce qu'il faut dire? Ce n'était déjà pas simple de réfléchir au sens de nos paroles, mais maintenant il faudrait encore savoir pourquoi on les dit, comment s'y prendre. Comment savoir, dans la complexité de tout ce qui nous passe par la tête, ce qu'il est judicieux de dire ou de taire? Et comment? Et pourquoi? La complexité du choix. Nous disposons de repères pour décider de ce que nous allons privilégier dans nos propos. Différents niveaux de maturité sous-tendent nos prises de position. Au cours de notre développement moral, nous utilisons des critères de plus en plus adultes. Au fil des années, si nous évoluons bien, ils se superposent les uns aux autres et nous devons apprendre à en user conjointement et à bon escient. Plus la situation est complexe, plus elle englobe ces différents niveaux de référence. Notre réflexion n'en est que plus élaborée. Premier repère, le plaisir. Le premier repère est le plaisir. Le plaisir que nous ressentons lorsque nous faisons ou disons quelque chose de bien. Cette référence est la première que nous apprenons au début de notre vie. Le bébé sent avec son corps ce qui est bon pour lui. Cela lui fait plaisir. Son corps frétille, il rit, il est heureux. Il ressent également du plaisir lorsque ses parents approuvent ce qu'il manifeste. Leur soutien et leur approbation lui font du bien. Le plaisir est son unique critère de bonheur. Il ne fait pas les choses pour plaire ou parce qu'elles lui sont utiles. Il n'a pas encore le sens des responsabilités. Tout cela viendra plus tard. S'il ressent un déplaisir, c'est également son corps qui le renseigne sur ce qui est mauvais. C'est inconfortable, douloureux ou interdit par les parents. Il se fâche. Cela le peine et donc nuit à son bonheur. Le plaisir et le déplaisir restent des repères premiers toute notre vie. Dans ce registre aussi élémentaire qu'essentiel, notre corps nous dira toujours ce qui est bon ou mauvais pour nous. Notre corps est notre première boussole. Mais notez qu'elle est interne, elle nous est propre. Le plaisir est un critère nécessaire mais égocentré. Certaines personnes s'en contentent toute leur vie, sans jamais intégrer d'autres repères. Elles font et disent ce qu'elles aiment, comme elles veulent et quand elles veulent, et basta. Elles disent « c'est comme ça, c'est mon caractère et qui m'aime me suivent ». Comme les jeunes enfants, et malgré un âge qui devrait leur permettre de regarder un peu plus loin que le bout de leur nez, le plaisir est le seul critère pour décider de faire ou non certaines choses, comme d'exprimer leurs pensées ou de la terre. Parfois, pour des cas simples, c'est très juste. Mais lorsque la situation devient complexe et qu'elle concerne une relation avec un être important qui a une vision du monde divergente, c'est un peu court. Selon les niveaux d'attention 0, 1, 2, elle se situe automatiquement au niveau 0. Deuxième repère, l'intérêt. Plus tard, lorsque nous sommes entrés à l'école, nous n'avons plus pu diriger notre vie avec notre plaisir comme unique repère. Nous avons dû intégrer ce qui était utile et nécessaire. Nous avons appris à soigner notre intérêt, même si cela ne nous faisait pas vraiment plaisir. Nous comprenions que l'effort nous permettait de poursuivre un objectif qui n'était plus instantanément rentable. Nous avons découvert qu'il était intéressant de nous projeter dans le futur et d'adopter des stratégies de progression afin de viser un résultat à moyen ou long terme. Cette étape de notre croissance est arrivée à point nommé pour nous aider à admettre, par exemple, qu'il valait mieux faire nos devoirs avant d'aller jouer ou qu'étudier nous permettrait d'aller plus loin dans notre future carrière et dans la construction d'un certain type de vie. Nous avions intérêt à connaître nos leçons, c'était utile et cela générait une forme de satisfaction, différente du plaisir hédonique du premier âge, mais qui constituait cependant un bon repère. À cet âge, la notion de bonheur n'est plus toujours liée au plaisir immédiat, elle se nuance de la notion de « travail bien fait ». Même si c'est loin de représenter ce dont vous vous souvenez, c'est durant ces années-là que ces repères entrent en lice. Nous les intégrons en passant par des essais et des erreurs, et ils commencent à prendre sens. Normalement, si tout va bien, l'enfant entre 6 et 12 ans